qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et sa finance où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
C'est fait que deux semaines qu'on débute avec ce thème du grand Félix Leclerc, où on retrouve des chômeurs, des locataires, des gens qui sont dans ce pays comme tel. Donc, bienvenue à ce rendez-vous aux deux semaines logement un droit. Et à la voix avec vos micros. Aujourd'hui, on rejoindra tout à l'heure Mario Mercier, qui est à Montréal pour l'Assemblée générale, une des Assemblées générales du Frappé, mais aujourd'hui, pour une bonne partie de cette heure avec nous, pour la première fois, sur les radios de Saint-Félix, Christelle Cyr-Morin. Bonjour, Christelle.
Bonjour, Alain. Merci de me recevoir aujourd'hui.
Ben oui, merci d'être là. Alors, évidemment, l'autre jour, on s'est rencontrés à une assemblée de locataires, de citoyens, citoyennes. C'était ta première fois que tu venais à l'Assemblée. Comment tu es arrivé à connaître l'association? Comme beaucoup de gens qui disent « C'est quoi ça?
» Un peu un concours de circonstances, je dirais. En fait, j'ai connu quelqu'un qui était membre de l'association, qui m'a invité à venir prendre partie à l'une des assemblées. Puis j'ai parlé avec Norma, avec Mario à ce moment-là, puis j'avais envie de m'impliquer de façon bénévole, de donner de mon temps, puis de voir comment je pourrais peut-être apporter mon expérience, mon expertise. Et puis, à ce moment-là, on m'a offert, là, entre autres, là, de monter une formation sur le projet de loi 31.
On en parlera dans les prochaines
minutes. Oui, c'est ça, on va en parler. Donc, c'est comme ça que je me suis impliquée.
Alors, pas seulement quand je t'ai vu la première fois, j'ai dit, c'est quelqu'un qui a invité, justement, comme tel, parce que dans notre thématique du logement un droit, et je regardais, puis, comme tel aussi, malgré ton jeune âge, toute une expérience de vie comme telle. Parle-nous un petit peu de ce que tu as fait comme telle.
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis la région de l'Estrie. J'ai toujours adoré la région ici. Mais j'ai fait un choix en 2005 de quitter la région, d'aller faire mes études à l'Université d'Ottawa, d'aller faire mes études en droit, qui était un rêve j'avais depuis très longtemps. Donc, j'ai terminé mes études. Je suis allée travailler pour l'aide juridique du côté de Gatineau,
okay.
Où j'ai fait là, surtout du droit familial, protection de la jeunesse, un peu droit civil. J'ai pratiqué pendant 2 ans, puis des fois, il arrive des incidents dans la vie qui semblent être malheureux, mais qui nous ouvrent la porte à des nouvelles expériences. Donc, j'ai eu un gros accident de voiture, puis j'ai été en réhabilitation pendant presque 3 ans.
Ah, mon Dieu, oui, quand même.
Mais ça m'a amené à vraiment réfléchir sur ce qui était vraiment important pour moi dans la vie. À quoi allait ressembler mon cheminement de carrière? Qu'est-ce qui m'intéressait vraiment? Qu'est-ce qui était dans mes valeurs? Donc, j'ai décidé à ce moment-là de retourner aux études dans un programme qui était plus au niveau des relations d'aide. Et encore une fois, par pur hasard, je me suis fait offrir un poste comme coordonnatrice en matière de respect des personnes, qui sont des postes qui ont été créés là, dans les dernières années suite à, je ne vais pas dire l'imposition, mais une demande du gouvernement de mettre en place des politiques, des directives sur les violences à caractère sexuel et sur le harcèlement psychologique et la discrimination.
D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 21 mars... Entre autres, c'est la journée, justement, contre le racisme.
Exactement.
Il y a la trisomie aussi. Il manque tellement de jours dans l'année, il faut qu'il en mette un peu. Mais je pense que aujourd'hui, c'est justement, tu as pu voir plein de cas comme tel.
Exactement. C'est devenu vraiment un besoin, on le voit. Donc, ça a commencé plus en Ontario, puis ensuite, quelques années plus tard, c'est arrivé au Québec. Donc, à un moment donné, je m'ennuyais de la belle région de l'Estrie. Bon. Donc, j'ai décidé de revenir ici, là, dans l'idée de continuer dans des postes similaires, ce que j'ai fait pendant une période. Puis, comme la population mondiale, quelques mois après mon arrivée dans la région, on a eu la pandémie.
Mais oui, hein?
Exactement. Puis, encore une fois, je me suis dit, essayons de prendre cette difficulté-là, puis de changer ça en une opportunité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas peut-être réessayer de retourner en droit. Donc, j'ai refait, ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué, plusieurs travaux de performance, des heures de formation continue pour récupérer là, ma licence pour devenir avocate. J'ai pratiqué encore ici dans la région et j'en suis venue un petit peu à la même réalisation de dire, est-ce que le droit, c'est vraiment un domaine où je sens que ça s'enligne avec mes valeurs, puis que je fais vraiment de la relation d'aide. J'ai aimé pratiquer, il y a beaucoup de choses de la profession que j'aime beaucoup, mais j'avais vraiment l'intérêt de retourner, j'avais beaucoup aimé travailler dans des institutions postsecondaires, donc cégep, université. Donc, j'ai fait le saut de nouveau pour retourner travailler dans ce domaine-là. Et par la suite, une autre opportunité qui se ressemblait un peu, mais plutôt que de m'occuper de prévention, sensibilisation au niveau des violences à caractère sexuel ou du harcèlement, c'était plutôt de mettre en place un plan d'action pour la santé psychologique étudiante. Donc, des activités, des formations, des ateliers pour le bien-être et la réussite des étudiantes, qui était un nouveau projet que j'ai mis sur pied, que j'ai adoré et sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Puis, à la fin de mon contrat, en janvier 2024, encore là, je me questionne un peu, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, j'ai décidé de donner mon temps, puis de m'impliquer auprès d'organismes, puis l'Association des locataires semblait être un endroit où j'aurais ma place, puis je pouvais apporter quelque chose.
Hey, tout un peu, vraiment. Puis là-dessus, tu as eu quelques années où justement, où tu t'es remis physiquement de ton accident. Là. Donc, imagine-toi, dans ce peu d'années, c'est un parcours assez intéressant. Bien, c'est intéressant, ça, vraiment, déjà, ça nous donne le goût de connaître ce que tu fais. Puis surtout dernièrement, justement, à cause de cette compétence-là que tu as aussi en droit. Comme tel, l'association t'a pu donner ce qu'on appelle un atelier, une séance de formation sur le fameux projet de loi 31. Ça a fait couler d'encre, hein, ça?
Oui, beaucoup. C'est en fait ce projet-là, quand j'ai commencé à faire du bénévolat à l'association, ils étaient en train de mettre sur pied des formations, séances d'information pour les locataires. Puis je dirais que pour eux, je suis arrivée vraiment au bon moment parce que j'avais du temps à donner, puis c'était des choses que j'avais déjà fait, soit donner des formations, mais aussi, je ne suis pas une spécialiste au niveau là, du tribunal administratif du logement, mais bon, j'ai quand même mon background, si vous me permettez, en droit.
Ben oui.
Donc, on a monté ça ensemble, j'ai préparé là, une présentation PowerPoint, puis on a donné 2 présentations. Moi, je n'étais pas là, la première qui était le 13 mars, okay. Mais le 16 mars, on est allé à l'association, puis on a présenté ça. Donc, ce sont les principaux changements, les nouvelles dispositions. Donc, aujourd'hui et dans la formation, je ne parle pas de tous les éléments, mais on en a choisi qu'on jugeait important à aborder aujourd'hui.
Et surtout parce que moi, j'ai travaillé comme intervenant, je te avais dit ça tantôt, là. Souvent les gens, nous autres, ça peut paraître, comme tu vas voir le médecin, il va te sortir un non-sod long, tu dis, je suis bien malade, voilà. Mais c'est important, moi, je leur dis, traduisez-moi, même chose. Pour toi et moi, ces mots-là paraissent bien simples, mais souvent la population, quelle que soit, comme telle, il y a des choses qui ne sont pas claires, puis je pense que des sessions comme tu as donné ou que l'association explique, je pense que c'est important. Tu l'as constaté aussi avec les gens que tu rencontrais, la difficulté de comprendre le jargon.
Oui. Parce qu'on a eu effectivement là, beaucoup de questions, puis tu sais, même si on tente de rendre ça le plus simple possible, il faut garder en tête qu'il faut tout de même utiliser les termes qui sont utilisés dans la loi. Donc, tu sais, on a eu beaucoup de questions, puis j'ai tenté de le faire parfois à l'aide d'exemples. Donc, c'est ce que je vais faire peut-être aujourd'hui pour que ça soit plus simple. Puis aussi, une autre peut-être notion, dans la loi, on va parler de locataire et de locateur, qui sont les termes, là, les mots utilisés. Mais parfois, ça peut être mêlant, surtout quand on explique quelque chose, il n'y a pas une grosse distinction dans les mots locataire. Donc, pour l'information que je vais donner aujourd'hui, je vais faire référence à propriétaire et locataire, qui sont des mots qui se ressemblent moins. Mais il faut quand même comprendre qu'un locataire, une compagnie de gestion, peut ne pas être le propriétaire et un propriétaire peut ne pas être le locataire. Là.
On s'en va là tout à fait qu'on... On tue.
Parfait. Peut-être aussi, tu sais, une mise en contexte. Donc, d'où vient ce projet de loi-là? Oui. Puis, bon, je l'appelle projet de loi. Maintenant, c'est vraiment la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Donc, au départ, c'était vraiment une demande, un désir des propriétaires de faire un changement au niveau de la cession de bail.
Oui.
Donc, eux avaient une demande, avaient une impression que, ben, tout d'abord, ils ne pouvaient pas choisir leur locataire. Parce que c'était fait par l'entremise de l'ancien locataire.
C'est
donc, lui voulait partir, c'était lui qui choisissait qui allait prendre sa place. Ce qui n'était pas très apprécié des propriétaires.
Ouais.
Une autre chose, c'est quand que le locataire quitte et qu'il trouve un nouveau locataire, il peut augmenter ses prix. Puis on va voir souvent qu'il va y avoir de très bonnes augmentations. Donc, ça permet aux propriétaires d'avoir un loyer beaucoup plus élevé. Donc, avec la cession de bail, c'était pas possible de faire. Donc, une autre frustration un peu des propriétaires.
Puis dans le contexte actuellement, où justement, les augmentations...
C'est ça. On tente de trouver les meilleures façons possibles de pouvoir augmenter. Donc, dans ce contexte-là, on a créé cette loi-là. Puis, comme je l'ai dit, à prime abord, c'était une demande des propriétaires, mais à la lecture, puis à voir tout ce qui a été ajouté, moi, en tout cas, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup des dispositions de la loi qui vont avoir un impact favorable sur les locataires.
Parce qu'au début, je pense aux frappeurs, entre autres, ou d'autres, qui décriaient un peu, là, ou peut-être que la façon, parfois, peut-être, le gouvernement actuellement, il présente pas toujours leurs affaires de façon pour se faire aimer. Peut-être la façon que c'était présenté, le ton pouvait emmener justement, des groupes de pression à dire « wow, 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 là, ça marche pas ». Je pense que ça, ça démystifie justement ce lever de bouclier-là.
Exactement, exactement. Puis je pense qu'aussi, tu sais, je suis pas dans leur tête, mais je pense que, tu sais, le gouvernement a accepté de dire « je comprends, on va donner, on va répondre à une demande des propriétaires, mais je pense que ça vaut la peine de peut-être regarder d'autres dispositions, puis de voir comment on peut donner aussi un peu là, aux locataires là, par l'entremise de cette loi-là. »
Alors, un peu là-dessus.
On se lance, parfait.
On se lance.
Donc, comme je l'ai dit, là, on ne fait pas le tour de toutes les dispositions. On en a pris qu'on trouvait...
Ah bon?
Désolée.
Pas de problème.
Les écouteurs qui sont tombés. Donc, je vais commencer avec la cession de bail, qui est la première et la raison d'être de ce projet-là.
Et qui a fait couler tellement d'encre et aussi de la salive quand les commissions parlementaires, là, ah, mon Dieu, c'est...
Oui, ça a été...
Ça a brossé.
exactement. Avant cette nouvelle loi-là, la règle, c'était que le locataire, donc comme je l'ai dit, le propriétaire, qui est avisé de l'intention du locataire de céder le bail, peut accepter la cession ou la refuser, mais ça devait être pour un motif sérieux.
Sérieux, oui.
Donc, s'il refusait, c'était pour un motif sérieux, uniquement. Maintenant, ce qui a changé, c'est le propriétaire peut aussi refuser de consentir à la cession de bail pour un motif autre qu'un motif sérieux. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir ce critère-là, d'avoir un motif sérieux. Dans le cas où il refuse, ce qui va arriver, c'est que le bail va être résilié de plein droit à la date de cession indiquée dans l'avis qui va avoir été transmis au locataire. Donc, d'un certain côté, la raison pour laquelle les locataires utilisaient la cession de bail, c'était parce qu'ils étaient pris dans ce contrat-là de une année, puis pour quelconque raison, si par exemple une personne a son loyer, rencontre quelqu'un, veut emménager avec cette personne-là, veut pas continuer à payer les deux loyers, donc on se dit, dans la loi, la seule façon légalement de pouvoir briser mon bail, c'est à travers la cession de bail. Mais, étant donné que... Puis il est possible aussi parfois que le propriétaire va toujours donner une raison, un motif pour ne pas avoir de nouveaux locataires jusqu'à ce qu'on se rende à la fin du bail.
J'en ai entendu dans ma vie, moi.
Exactement, pour finalement attendre la fin du bail et le propriétaire se trouve à pouvoir choisir son locataire et choisir le montant de loyer à ce moment-là. Donc maintenant, ce qu'on dit, c'est d'accord, le propriétaire peut refuser, mais en échange, si le propriétaire refuse de la cession, le bail est résilié. Donc, le locataire gagne un petit peu d'une certaine façon parce que, comme on l'a dit, la cession est utilisée dans le but de se sortir de ce contrat-là. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est habituellement, on avisait, ça peut être verbalement, qu'on allait céder son bail. Mais maintenant, on doit vraiment avoir un avis de cession qui indique la date de cession prévue. Donc, c'est habituellement, les gens ont déjà trouvé quelqu'un. Oui. Dit, donc, par exemple, le 1er avril, là, telle personne reprendra mon bail. Donc, c'est pas mal ça. Il y a un élément que je vais quand même ramener assez souvent qui est important pour chacune des dispositions, c'est ce qui touche les mesures transitoires. Donc, on a une nouvelle loi. À partir de quand ça s'applique? Oui. Qu'est-ce qui arrive aux dossiers ou, par exemple, aux demandes de cession de bail qui seraient arrivées en janvier? Oui, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Donc, dans le cas d'une cession de bail, ça va s'appliquer, donc les nouvelles règles vont s'appliquer uniquement lorsque la cession de bail, en fait, l'avis pour la cession de bail a été transmis après le 21 février.
OK.
Donc, si vous avez déjà reçu en janvier ou en décembre passé, faites la demande de cession de bail, c'est les anciennes règles qui s'appliquent. Donc, motif sérieux. Donc, je ne sais pas si c'est clair, cette partie-là pour la cession.
Moi, dans mon esprit, oui, parce qu'évidemment, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, la cession de bail, ça a toujours été quelque chose d'assez difficile.
Oui.
Parce que, comme tu dis, certains propriétaires, parfois, là, mettent un petit peu de bâton dans les roues, même des gros bâtons, là. Mais je pense que là, c'est beaucoup plus clair. Puis je pense que tranquillement aussi, les gens vont se faire à cette pratique-là.
Oui.
Puis d'avoir des gens comme toi qui verbalisent ça, qui donnent aussi, dans un langage clair, ce qui se passe. Je pense que de plus en plus, puis je suis sûr qu'à la session que tu as donnée, il y a plein de gens qui ont posé des questions, sûrement là-dessus.
On a eu énormément de questions parce qu'on ne s'attendait pas. Puis même si, tu sais, on tente de l'expliquer de façon claire en utilisant les bons termes, ou en fait, en utilisant les bons termes tout en étant clair pour monsieur et madame tout le monde, on comprend que des fois, c'est quand même, la loi, c'est quand même juridique, c'est toujours un domaine un peu plus difficile à comprendre.
Fait que ça, mais donc ça, c'est un gros morceau. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont revenus puis qui ont fait partie de cette formation. Sûrement qu'il va y avoir les prochaines fois, sûrement que tu vas avoir tu vas sûrement avoir d'autres demandes parce que il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu assister. Fait que, sûrement qu'il va y avoir des reprises de ça.
Effectivement, ça commence déjà là, à en parler. On a déjà reçu des demandes là, pour refaire cette séance d'information-là. Puis, tu sais, c'est certain que là, on est à la radio, on donne l'information, mais dans un contexte où on interagit avec les gens puis qu'on lui redonne l'opportunité, c'est un plus. Donc, tu sais, certainement, puis tu sais, je peux passer le message s'il y en a qui seraient intéressés d'avoir cette formation-là. Ils ont un lieu avec un minimum de personnes qui soient là, peuvent communiquer là, avec l'Association des locataires. On va évaluer la demande, puis si on a le temps. Mais moi, j'ai bien aimé, puis je suis ouverte là, à continuer, que ça soit en lien avec la loi 31 ou d'autres sujets qui peuvent être intéressants en lien avec la loi.
Alors, si on va toujours dans ce passé, le temps passe vite.
Hein?
Je l'avais dit, hein?
Oui, effectivement. OK, donc on peut passer peut-être au deuxième point, qui est l'éviction.
Oui, ça c'est un sujet très délicat.
Oui.
Très chaud.
Très chaud, effectivement.
Plus chaud que dans le studio.
Oui, effectivement, moi, tout à l'heure, c'est ce que je disais. Mais à force de parler, on se réchauffe.
Oui.
Donc, il y a différentes... Les points qui ont changé, c'est au niveau de la... Puis je vais y aller plus en détail, mais c'est la présomption de refus et le renversement du fardeau de preuve pour l'introduction d'un recours. Donc, je vais aller un peu plus clair. Anciennement, donc avant le 21 février 2024, le locataire qui reçoit un avis d'éviction doit lui-même introduire un recours devant le tribunal pour s'opposer à son éviction. Donc, le propriétaire l'informe qu'il veut l'évincer, et là, c'est à lui d'ouvrir un dossier au tribunal. Il y a des frais, c'est pas simple, ça peut être long avant d'avoir un rendez-vous pour avoir l'information.
Le fardeau qui était sur le dos du locataire, c'est épouvantable.
Exactement. Puis quand on se retrouve dans une situation, puis on est une personne vulnérable, puis même pas une personne vulnérable, mais ça nous affecte émotivement, oui. Tu sais, de savoir qu'on va être dehors de notre logement, est-ce qu'on va en avoir d'autres? C'est très stressant, ce qui fait en sorte que même si oui, on fait notre demande, puis oui, nos chances de gagner pourraient être bonnes, c'est une expérience difficile pour les gens.
Et souvent, moi, j'ai vu un exemple, entre autres, de quelqu'un qui était évincé pour transformation de logement, là, et rénoviction, qu'il appelle. Là. Mais le monsieur avait 84 ans. Là. Il faisait 42 ans qu'il était dans le même quartier, 24 ans, le même loyer. Le fardeau, là, sur lui, là, cet homme-là, il vivait un stress énorme.
Énorme.
Fait que donc, ça, c'est l'amélioration dans cette loi-là, maintenant, c'est autre chose.
Okay? C'est ça, exactement. Donc, ça, on a décidé de changer ça. Ce que ça dit maintenant, plutôt, c'est que le locataire qui reçoit l'avis d'éviction, ce n'est plus à lui d'introduire le recours devant le tribunal pour s'opposer à son éviction. Donc, dans le mois de la réception de l'avis qui lui a été transmis par le propriétaire, le locataire, il doit aviser le propriétaire de son intention de s'y conformer ou non. Et s'il ne le fait pas, c'est ça la partie super importante, je vais le répéter.
Oui, très important.
S'il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement. Donc là, vraiment, ce qu'on vient de dire, c'est ton propriétaire t'envoie une lettre, il dit « on t'évince, si tu ne fais rien et tu ne réponds pas, ça veut dire que tu refuses. » Donc, il n'y a pas de nécessité de lui réécrire et de dire ou dire « j'ai reçu l'avis, je pense que j'ai passé à côté du délai, je ne l'ai pas fait. » Il y a une présomption, si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous refusez.
Okay.
Dans ce cas-là, lorsqu'il y a eu un refus, c'est plus au locataire, c'est plus la responsabilité du locataire de s'opposer à ça. Ça va être au propriétaire d'aller devant les tribunaux et de demander que le locataire soit évincé.
Ça, c'est vraiment
un
plus, parce que comme tu dis, là, quand les gens... Il faut que vous alliez au tribunal. Puis effectivement, maintenant, là, les gens n'ont pas tout Internet pour aller prendre un rendez-vous. Là.
Oui, c'est devenu de plus en plus. Puis ça pourrait être un autre sujet,
oui.
La difficulté d'avoir accès. Mais,
Déjà, je peux te dire, là, je vais te réinviter,
si
tu veux.
Parce ça va me faire plaisir.
Parce qu'effectivement, l'expertise que tu donnes... Aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est très court, l'émission. On va voir Mario tout à l'heure aussi en entrevue. C'est important. Tu sais, mon expérience de 16 ans d'intervenant à l'association a vu comment les gens, puis toi, tu l'as vu dans ton expérience aussi de juriste, là, comment les gens sont démunis face à ça. Ça a l'air simple pour toi et moi, là, mais pour quelqu'un qui vit ça, là, fait que donc ça, je pense qu'il faut leur dire comment c'est important que là, c'est plus sur le dos, sur les épaules du locataire.
Exactement, exactement. Puis si on met tout le temps à simplement lire les articles, on ne vient pas en aide aux auditeurs. T'sais. Fait que c'est vraiment important, oui, de pouvoir bien l'expliquer puis dans des bons mots. Puis, bon, dans le cas où il y a un recours parce que le locataire est évincé, ça va être aussi encore là au locataire, au propriétaire, là, de démontrer que ça a été fait de bonne foi.
Oui, de bonne foi, c'est ça.
Exactement. Ensuite de ça, l'autre gros changement qui concerne toujours l'éviction, puis à la prochaine diapositive, parce que moi j'ai des diapositives devant moi.
Oui, à la radio, on la voit pas.
Oui,
là,
c'est ça, exactement. Hein, je dois garder ça en tête. on parle, en fait, dans les prochaines, on parle aussi de la démolition. Puis juste peut-être garder en tête, parce que je suis consciente que le temps est court, c'est que finalement, quand on arrive à cette partie-là sur la démolition... C'est exactement les mêmes règles que l'éviction. Okay. Fait que je vais passer plus rapidement, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que les règles que je parle de l'éviction s'appliquent aussi au cas de démolition. Puis éviction, on entend souvent, c'est ce qui est peut-être le plus connu, les rénovictions. Donc, le propriétaire qui veut
la mode depuis quelques années, malheureusement, centre-ville ici, entre autres. Là.
Exactement. Donc, en fait, par le passé, lorsqu'on voulait évincer un locataire, on devait payer une indemnité qui représentait 3 mois de loyer.
Exactement.
Et on devait aussi payer les frais raisonnables de déménagement. Maintenant, ce qui a changé, c'est les frais de raisonnables de déménagement, ça ne change pas. Donc ça, c'est toujours quelque chose que le locataire va avoir droit. Mais en ce qui concerne l'indemnité, par le passé, c'était 3 mois de loyer, peu importe que vous avez habité là 1 an ou vous avez habité là 25 ans.
Oui, OK.
Donc maintenant, ce qu'on dit, c'est l'indemnité... Elle va être équivalente à 1 mois de loyer pour chaque année de location ininterrompue du logement par le locataire. Donc, je vais donner un exemple parce que des fois, en lisant la phrase, ce qui veut dire que si vous habitez dans votre logement depuis 10 ans, puis que vous avez payé, vous payez 1 000 par mois dans votre logement, donc on va faire 10 fois 10, qui va donner que vous allez recevoir une indemnité de 10 000 $
Oh!
Et là, je fais toujours des erreurs dans mon calcul, mais 1 000 $ fois 10 ans, 1 000 fois 10,
ben oui.
C'est bien ça.
Oui.
C'est ça. Donc, ça ne sera plus 3 mois qui auraient normalement été 3 000 $
Puis, qui était aussi, selon moi, là, souvent, écoute, pendant que si tu trouves un loyer qui est 100$ ou 100, 200$ de plus cher, pendant ton 3 mois de loyer, là, il
ah passe, non, exactement.
Il passe vite, là.
Exactement, exactement. Donc là, vraiment, on va ça. Y aller. Bon. La seule balise, c'est que le minimum, c'est 3 mois de loyer. Donc, même si vous restez là depuis un an, okay. vous allez avoir quand même droit
minimum.
À 3. Minimum 3. Et le maximum, ça ne peut pas excéder 24. Donc, quelqu'un qui aurait okay. resté 25 années, l'indemnité va quand même rester à 24 fois le nombre du loyer. Fait que oui, une très bonne, une bonne nouvelle de ce côté-là.
Effectivement, parce que je pense à mon monsieur faisait 24 ans, il aurait fait le cash.
Ouais. Ben, en fait, ben, tu sais, c'est ça, les frais de déménagement, oui, c'est une chose, sont peut-être remboursés, mais il y a beaucoup, beaucoup de frais qui viennent avec oui. d'arriver dans un nouveau logement, en plus de l'augmentation c'est incroyable.
Parce que maintenant, tu parles d'un logement qui n'était pas cher. Mon monsieur, il payait 450, lui, là. C'est sûr qu'il ne trouvera pas un loyer, même pas une chambre. Tu peux même pas...
Non.
Même pas grand comme ici, là.
Effectivement.
Mais
effectivement.
Ça, je trouve que c'est un élément important que, comme tel. Puis comme tu dis, là, je vois le temps passer comme tel, mais moi, déjà, là, si tu es d'accord, on va faire une autre émission là-dessus. Parce que il y a plein de choses que les gens se posent comme question. Puis tu as une façon aussi de le présenter qui est simple. Tu vulgarises comme tel, puis tu mets ça important. Puis les gens... à partir de demain, peuvent réécouter l'émission. Donc, s'ils veulent réécouter plusieurs fois pour, comme tel, puis je me disais, c'est vraiment un élément... C'est vraiment intéressant. Moi, en connaissant le sujet, je pense à quelqu'un qui écoute et dit, aïe, c'est rafraîchissant de savoir aussi qu'il y a des éléments, mais évidemment, il faut que ça soit respecté de part et d'autre. Hein, ça, on
c'est
ça. Bien,
c'est
là.
Pas parce que la loi existe non. nécessairement qu'elle va être respectée. Mais
il y a des gens qui passent le feu rouge. Il y a des gens qui passent le feu rouge pareil. Là.
Exactement. Mais c'est en parlant qu'on sensibilise les gens, puis que maintenant qu'ils connaissent les droits, bien, c'est plus facile pour eux de pouvoir dire « oui, mais je le sais que la loi me permet ça ». Donc, si on ne leur donne pas l'information, c'est plus difficile pour eux d'aller la chercher. Aussi.
Effectivement. Déjà, c'est ça, comme tu dis, on va aller... Ben oui, déjà, la petite pause... Mario, ben, avec qui tu as travaillé là, ce
oui.
dossier-là,
oui.
Qui lui aussi avait une formation.
Oui, bien, on l'a monté ensemble. Lui a donné la première du 13 mars. Moi, je n'étais pas disponible, puis on a donné ensemble là, celle du 16 mars passé.
Fait qu'on a une petite pause. On oui. va aller sur le téléphone rejoindre Mario, justement, comme tel. Et puis, pour la deuxième partie de l'émission Logement et Droit, vous voyez, je t'avais dit que ça passe vite, hein? Là, c'est ça qui est le fun, avec des gens aussi qui ont quelque chose à dire comme toi. Là, il n'y a aucun problème. Fait que petite pause, on s'en va rejoindre Mario immédiatement.
CFLX présente en projection l'album La Somme des êtres aimés d'Alexandre Poulain. 4 années depuis sa dernière sortie d'album, sa 6e parution nous offre un son inspiré des années 70 qui s'ouvre sur un univers organique empreint de nostalgie.
J'ai rêvé de chaleur humaine, de tenir mon père dans mes bras. Quand je bois, j'ai moi la chienne.
Avec sa façon personnelle de nous raconter des histoires en quelques minutes, il nous transporte dans sa quête fuyante du bonheur sur des mélodies accrocheuses. Pour un album bien de chez nous, écoutez La Somme des êtres aimés d'Alexandre Poulain.
Comme un périple en Amazon.
Un rendez-vous musical, pas pire pantoute.
95.5 FM. C'est Félix.
Semble-t-il que Mario, merci, il me répond pas.
J'ai peut-être quelque chose à te... Ben là, je sais pas si on va l'avoir ou pas, mais moi, après l'éviction, là,
oui.
démolition, tu sais, j'avais déjà dit que c'est les mêmes règles, fait que j'aurais pu le sauter. Logement impropre à l'habitation, oui. J'aurais pu le sauter aussi, je vais t'expliquer après, puis je serais allé directement dans le vif du sujet qui est les représentations devant le tribunal.
Parfait. Puis quand on finit ça, on va aller essayer de le rejoindre. Okay.
Fait que je ne parle pas de l'insalubrité du tout.
Ah, tu peux, ben oui.
J'ai combien de temps, disons?
On va
il donne 10 minutes?
Oh, on va donner 10 minutes.
OK, fait que ça me peut me permettre de c'est parler...
C'est à lui de répondre.
OK, fait que je vais me remettre où on était, là, éviction... raisonnable, indemnité.
Ça fait partie du direct, hein?
Oui, c'est ça.
Les imprévus.
Mais est-ce que tu trouvais que c'était complet pour indemnité, recours? Je pense que je pourrais passer à la prochaine.
Oui. OK. Fait qu'on y va. Fait que ça... Fait que... Le micro est à toi.
Donc, on est en retour en attendant l'appel de Mario. Donc, je vais continuer un peu sur ma présentation. En ce qui concerne la démolition, comme je l'ai nommé tout à l'heure, on a voulu harmoniser. Donc, avant, les règles sur la démolition et les règles sur l'éviction étaient différentes, dans deux endroits différents de la loi. Donc, on a décidé finalement de les joindre. Tout se retrouve là dans le Code civil et c'est les mêmes règles. Là. Donc, on va parler du renversement du fardeau de preuve, puis on va parler aussi là, de l'indemnité qui représente un mois de loyer par année de location ininterrompue.
Et ça, c'est important, ça, parce que justement, souvent, ce qui touche le plus souvent ces évictions-là ou les démolitions, tout ça, c'est des gens qui habitent depuis longtemps. Puis, comme par hasard, le loyer, pas il ne monte pas aussi vite que certains locataires voudraient. Puis là, tout d'un coup, et c'est comme dit, c'est souvent les gens âgés, les personnes vénérables comme moi, là, mon âge. Mais c'est souvent ces gens-là qui sont les plus touchés. Puis se retrouver avec un petit 3 mois de loyer, c'était vraiment épouvantable. Donc, je pense que ça, faut le redire, comment que c'est... Cet ajout-là ou cette modification-là est importante.
Mm-hmm. Puis on avait posé la question lors de la séance du 16 mars, mais comment on fait pour garantir qu'on va l'avoir cet argent-là?
Oui!
Puis oui. dans les cas de démolition, en tout cas à Sherbrooke, eux, dans le fond, avant de démolir, vont demander la preuve que tous les locataires ont été payés avant de poursuivre avec les démolitions.
Ah.
Donc, ça se permet une certaine garantie parce qu'on en avait des craintes de dire, bien, moi, c'est quand même une somme de 8 000 $ qu'il me doit, quand est-ce que je vais obtenir? Donc, normalement, le paiement doit être fait à la fin du bail. Les frais de déménagement, ça va être payé quand on aura montré les factures.
C'est ça.
Mais dans le cas de démolition, la Ville vraiment s'assure que tous les locataires ont été payés avant de procéder avec la démolition. Fait que ça rassure un peu les gens, là, au moins.
Puis ça, c'est, je pense, un élément important, Christelle, que tu apportes, là, parce que moi, j'ai vu souvent des entreloupettes là, dans le marché privé. Là. Puis je pense que là, que ça rassure. Puis sûrement, comme tu dis, tu as eu des questions là-dessus. Oui. Là, les gens devaient être tout oreille, tous yeux, pour vraiment se faire dire les... Parce que souvent, les réseaux sociaux, c'est bien, mais des fois, ils disent toutes sortes d'affaires. Hein?
Oui, effectivement.
Mais là, d'arriver avec les bons mots, là, me dit, moi, ça, si j'étais à la place de quelqu'un qui vit ça, ça me rassure.
Puis, peut-être une autre chose, comme j'ai nommé tantôt, à toutes les fois qu'il y a une nouvelle disposition, il y a les mesures transitoires. Donc, dans le cas d'une reprise, d'une éviction, d'une démolition, ça va s'appliquer uniquement lorsque ça a été transmis après le 21 février, cette nouvelle règle-là. Donc, si vous avez reçu votre avis de démolition en janvier, malheureusement, ces nouvelles dispositions-là ne s'appliquent pas. Donc, vous allez avoir droit aux frais de déménagement, vous allez avoir droit à l'indemnité qui représente 3 mois de loyer.
Okay.
Mais il faut vraiment que...
C'est important, donc, ça, de se dire... Quelqu'un peut dire « Ah, ben, c'est le fun, mais non, là, c'est plus le fun. »
C'est
là.
Ça.
J'ai reçu le 1er janvier. Là,
c'est bon. Ça, exactement. Donc, pour chacune des dispositions, il y a toujours quelque chose qui est en lien avec le 21 février 2024. Qui est
la date. C'est important, des éléments, puis je pense qu'aujourd'hui, comme tu as dit, là, c'est important que que tout ça soit précisé. Parce que, comme tu l'as dit, puis moi aussi, je l'ai vu, des gens en pleurs, des gens découragés, assis sur le bord de la chaise à brailler, puis... je veux mourir. Les gens disaient carrément là, de quitter. Fait que au moins d'avoir des garanties. L'argent, je ne veux pas le bonheur, mais donne du moins du réconfort pour comme tel.
Puis tu sais, souvent, un obstacle qu'on a aussi, c'est que elle est difficile à trouver cette information-là. Tu sais, je veux dire, oui. Moi, j'ai travaillé en droit, j'ai mon code civil, je connais les articles où trouver l'information, mais il y a différents types de lois aussi. Il y a la loi sur les tribunaux administratifs, donc c'est pas facile de trouver cette information-là, qui est un autre problème aussi.
Exactement. Fait que donc, d'avoir des formations qui se donnent comme ça, là, ben, je pense que ben, les gens qui étaient présents, ils présentent sûrement ton...
Oui, ont beaucoup apprécié. En ont sorti avec... ils ont appris beaucoup.
C'est ça.
Ils ont bien apprécié.
Même valu des images à Radio-Canada.
Donc, ensuite de ça, je sais que tu es mieux que moi pour la gestion du temps, puis vraiment m'assurer, moi, il me reste deux sujets que je voulais aborder.
Oui, mais vas-y.
On est correct?
On est correct.
Parfait. Donc, un autre changement, c'est en lien avec les logements impropres à l'habitation ou l'insalubrité. Petite mise en contexte pour comprendre de quoi on parle quand on parle de logements impropres à l'habitation et d'insalubrité. L'insalubrité d'un logement, ça réfère à une situation qui peut rendre le logement en mauvais état d'habitabilité, je m'excuse.
Oui, d'ailleurs, ça se dit toujours avec « faut faire attention ».
Oui, c'est ça. On va peut-être parler plus lentement.
Pas trop
bien. Ou impropre à l'habitation.
Oui.
Et un logement impropre à l'habitation, c'est un logement dont, c'est ça qui est important, l'État constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public qui viennent à cet endroit-là. Donc, par exemple, on va parler de moisissures ou de champignons, de vermines, de rongeurs, d'humidité excessive. Mais le point important, c'est le critère de « constitue une menace sérieuse pour la santé ».
Oui, exactement.
Donc, en matière d'insalubrité, c'est au locataire d'introduire un recours.
Oui.
Il peut demander la résiliation du bail. Il peut avoir une ordonnance obligeant le propriétaire à exécuter les travaux. Si l'inexécution risque de rendre le logement plus impropre ou prendrait trop de temps, à ce moment-là, le locataire pourrait demander de quitter le loyer ou de ne pas payer le loyer durant la période des travaux. Là.
OK. Parce qu'il y avait aussi, à un moment donné, tu pouvais quitter le logement sans payer, justement, il y avait une disposition qui existait, là.
Oui, exactement. Là. Donc, ce que ça dit, c'est est en droit d'abandonner son logement.
L'avis d'abandon là, qu'on avait, là.
C'est ça, exactement. Devient propre à l'habitation. Il est tenu d'en aviser le locataire de l'état du logement avant l'abandon ou dans les 10 jours qui suivent.
C'est ça.
Donc, celui qui donne ses avis est... n'a plus à être dispensé de payer le loyer là, pendant qu'il est sorti. Donc, effectivement, là, c'est une chose qui était... qui était déjà dans le code civil.
L'avis d'abandon, c'est ça.
Exactement. Donc, c'était un petit peu un contexte, mais maintenant, ce qui a changé en lien avec les dommages et intérêts, c'est qu'on a ajouté la possibilité d'avoir des dommages et intérêts punitifs. Donc, on va avoir des dommages et intérêts quand il y a eu un préjudice. Donc, on peut démontrer qu'il y a eu un préjudice et on demande d'avoir des dommages pour compenser. Les dommages et intérêts punitifs, de façon générale, dans la loi, c'est rare. Ça doit se retrouver dans certains endroits. On ne peut pas, à n'importe quel moment ou pour n'importe quelle circonstance, dire « je vais manger des dommages et intérêts, demandons aussi des dommages punitifs » et tout ça. Mais parfois, la loi le permet. Et ici, c'est ce qu'on est venu ajouter. Ce qu'on est venu dire, c'est que lorsque le locataire introduit une demande au tribunal, il peut demander à ce que le locataire, le propriétaire, doivent payer des dommages et intérêts punitifs lorsque, ça c'est quand même important, le logement est devenu impropre à l'habitation en raison de sa négligence, donc en raison de la négligence du propriétaire.
Oui.
Donc c'est quand même important, c'est il a été avisé, il n'a pas fait les travaux, il a été négligent. Donc on veut un peu, par cette disposition-là, donner une petite tape ses mains finalement au propriétaire de dire c'est une chose, il va y avoir des dommages et intérêts pour le préjudice commis, mais tu as été négligent. Donc, il va y avoir un dommage de plus qui va être donné, qui va être souvent sous une forme d'argent. Donc, une punition, si je peux le dire comme ça.
Parce que souvent, c'est ça, les demandes sont faites, là, comme tu dis. Mais ça, les gens m'ont appris que j'en ai vu des logements dans des états assez épouvantable.
Ça envoie un message aussi, tu sais, de ces jugements-là aux autres propriétaires, oui. Tu sais, de dire, je vais payer des intérêts, des dommages et intérêts, mais maintenant, le locataire peut aussi demander d'autres montants supplémentaires. Donc, tu sais, c'est un message aussi, des fois, qui est passé, là, avec les dommages punitifs.
C'est déjà bien, oui. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que là, à un moment donné, ça durcit un peu aussi la façon, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, on s'entend que je veux dire, moi, à 16 ans, je pourrais faire un livre de logement insalubre que j'ai vu. Là.
malheureusement,
il y aurait des images à ne pas regarder avant de manger. Là. Mais il reste que, à un moment donné, il faut que ça cesse. Parce que, oui. Puis encore là, c'est souvent aussi les personnes les plus vulnérables qui sont dans ces...
Effectivement.
Ça n'arrive pas souvent dans les nouvelles constructions, mais des gens qui habitent là, encore là dans des logements depuis longtemps, mm-hmm. qui n'ont pas eu d'entretien, c'est des gens vulnérables, personnes âgées. Personne seule, personne immigrante mm-hmm. qui arrive
oui, beaucoup.
Ouais. Dans des logements, puis souvent, ils ne savent pas qu'ils peuvent se défendre.
Exactement. Exactement.
Ils ont connu pire. Ils disent c'était pire dans mm-hmm. mon camp de réfugiés, là, mais ça ne justifie pas d'avoir des coquerelles dans ton mm-hmm. logement. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que ça, c'est un bel élément que tu apportes, mm-hmm. Christelle.
D'un côté... c'est certain que, tu sais, ça demande quand même, puis c'est difficile, on va se le dire, là,
ah oui.
d'ouvrir une demande devant oui. le tribunal. Les gens ont peur des répercussions,
aussi,
des peurs
ben oui.
de ce que ça peut créer dans le lien avec le propriétaire. Il y a une grande peur de le fait à faire, puis une fois qu'on le fait, tu sais, c'est peut-être pas une bonne référence, mais tu sais, quand on parle, par exemple, de violence à caractère sexuel, oui. tu sais, les gens l'ont vécu, on les croit, tu sais, c'est plus une question, il y a eu les mouvements. Mais on le sait très bien que pour les femmes qui vont aller jusqu'au bout de ce recours-là, ça va être très difficile émotionnellement.
Exactement.
Exactement. Donc, c'est pas les mêmes choses, mais c'est difficile quand ça nous vise. Puis,
comme je dis souvent, là, les locataires, si vous envoyez une lettre à votre propriétaire, il ne vous invitera pas à souper. Puis s'il vous invite à porter votre lunch, parce qu'il ne sera peut-être ouais. pas content, parce qu'il reste que c'est sûr que prendre des procédures, c'est pas facile.
Mm-hmm.
Mais si on le fait pas, ben...
On perd nos droits.
Mais il y a des gens qui disent, « Ouais, mais là, il va être fâché. » Oui, ben oui.
Ouais.
Tu sais, je comprends, c'est pas une lettre, c'est pas une vraie carte de Saint-Valentin, là, quand vous envoyez. Mais il reste que c'est un fardeau. Mais je pense que là, actuellement, il y a au moins des assurances que
Exactement.
Ces démarches-là qui vont être faites mm-hmm. vont porter fruit un peu plus.
Exactement, exactement. Par la suite, donc la dernière partie de la présentation, de la séance d'information, ça touche une, je l'ai nommée à plusieurs reprises, une que je trouve très intéressante, c'est, en fait, pour faire peut-être une contexte, ça touche la représentation devant le tribunal.
Oui.
Anciennement, je pense que ça a toujours été le cas, le fait de représenter quelqu'un et le fait aussi de faire un avis juridique, ce sont des gestes qui sont permis uniquement aux gens de la profession d'avocat, donc aux oui. membres du barreau.
Exactement.
Tu sais, par exemple, un médecin est la seule personne qui peut prescrire des médicaments. Donc, tu dois être dans l'ordre des médecins pour pouvoir le faire. Donc, avant, pour les tribunaux, c'était entendu partout, uniquement soi-même ou un avocat peut représenter, dans le cas ici, un locataire. Puis on est venu changer ça parce qu'à partir de maintenant, c'est possible. Donc, une partie qui a un recours, qui ouvre un recours ou il y en a un déjà ouvert après le 21 février,
toujours
pour cette date-là.
Très important.
Donc, le recours a été ouvert après le 21, peut demander à la personne de son choix de le représenter. Donc, c'est toujours possible d'engager un avocat pour le faire. C'est possible d'engager quelqu'un, par exemple, un juriste comme moi, comme Mario Mercier, donc quelqu'un qui connaît la loi.
Alors, parce que souvent, moi, je suis allé comme association locataire.
Oui.
J'étais aussi utile que ta bouteille d'eau ou ma tasse de café. Non, parce que là, on s'assoyait. On était comme un support moral.
Mm-hmm.
Mais le juge, on disait, vous savez que vous n'avez pas le droit de parler.
Exactement.
Et là, ça, c'est merveilleux.
Oui.
Puis il faut le répéter. Donc, ça veut dire que, mettons, que moi, je suis un locataire et écoutez ta magnifique session. Il dit, moi, j'aimerais ça que tu me représentes. Tu pourrais le faire, même si tu n'es pas présentement membre du barreau.
C'est exact. Donc, tu sais, ça permet vraiment à tout le monde. Donc, ça nous inclut, mais ça inclut aussi, moi, j'ai pensé au cas où d'une personne d'un certain âge, tu sais, qui commence à avoir des problèmes au niveau de sa mémoire, peut-être, puis qui n'est pas une personne inapte, mais aurait besoin, peut-être qu'elle a son petit-fils qui fait ses études en droit ou son petit-fils qui connaissait un peu ou qui a peut-être plus le temps de s'occuper puis de bien préparer le dossier, va pouvoir faire les représentations pour sa grand-mère, par exemple. Puis c'est certain que quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans la pratique à tous les jours, mais qui connaît quand même comment ça fonctionne, le fait que c'est maintenant possible de pouvoir faire ces représentations-là, puis comme tu disais tantôt, c'est complètement différent que d'accompagner. Parce que présentement, tout ce que la loi permet, c'est de dire, tu as le droit d'avoir un accompagnateur.
Ah ouais, moi, j'étais
à côté. Il va être là pour te rassurer, il va être là pour tourner les feuilles pour toi,
c'est ça.
Mais c'est pas mal tout.
Il a grogné du propriétaire parce qu'il y en a qui me disaient, tu fais quoi toi là?
Exactement, on va voir.
Puis qu'il voulait même qu'on sorte. Des fois, il demandait au juge de nous faire sortir. Puis on ne dit rien, imagine-toi.
Exactement. Donc, ça vient vraiment, vraiment changer. Puis, tu sais, moi, je me pose beaucoup de questions sur est-ce que ça va extrapoler dans d'autres domaines. Mais pour l'instant, je pense que ça va être très, très aidant. Tu sais, on ne se le cachera pas, puis je ne parlerai pas contre les avocats, mais c'est cher. Tu sais, puis les gens, les locataires...
Il n'y a pas tout le monde qui est admissible non plus à l'aide juridique.
Exactement. Puis, ce n'est pas toutes les causes que l'aide juridique prenne aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis, comme je l'ai dit tantôt, quand on arrive à la cour, puis c'est notre dossier, puis que le propriétaire, c'est quelqu'un avec qui on a, par le passé, eu des bonnes relations, c'est pas facile. J'ai eu moi-même, là, tu sais, à faire une cause qui me concernait. Je vous assure, c'était pas une cause criminelle. Mais il y avait une nervosité parce que ça nous touche. C'est nous qui vivons.
Exactement.
Fait que d'avoir une personne qui peut faire vraiment les représentations pour nous, ça vient changer bien des choses. Parce que dans le passé, comme je l'ai dit, c'était soit l'avocat ou le conjoint, puis on t'entend conjoint par la loi, pas mon chum avec qui je suis depuis 2 mois, là, c'est pas possible. Puis, si c'était pas un avocat, puis que c'était une autre personne, par exemple un allié, dans un cas où la personne ne peut vraiment pas physiquement ou mentalement se représenter seule, elle a besoin d'avoir quelqu'un, on dit « OK, un allié, un parent peut le faire, doit signer un document et doit dire que ça ne sera pas rémunéré. » Donc, ça doit être à titre gratuit.
Gratuit, c'est ça.
Maintenant, les locataires peuvent trouver quelqu'un, comme je dis, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un juriste, une juriste, mais une personne qui dit, écoute, tu peux te faire les représentations pour moi. Tu sais, je vais te parler de mon dossier. Moi, je ne serai pas à l'aise devant le juge.
Non, parce que c'est bon, comme je dis, j'accompagnais souvent les gens, là. Tu sais, ils tremblaient, là. Puis, ils bafouillaient. C'est arrivé quelquefois, j'ai pu faire le faire. Il y a un monsieur qui ne savait pas lire et écrire au juge, parce que je dis, là, je vais lui dire les choses. Hein. Mais si tu tombes sur un juge qui est vraiment, là, excuse-moi, anglais, by the book, là, il pourrait dire non. Mais il reste que les gens, puis tu l'as vécu sûrement, tu as accompagné des gens, les gens arrivent, puis ils tremblent. Là. Fait que ça peut apporter vraiment aussi une plus grande facilité.
Exactement. Je pense qu'on... Puis tu sais, on veut pas, c'est nouveau. Tu sais, on va voir comment ces dispositions-là vont être utilisées. Puis je pense que les gens doivent le savoir. Tu sais, c'est pour
ça, pouvoir, ça va être important d'être publicisé dans le sens que... De le redire, parce que je suis sûr que monsieur, madame, tout le monde, on irait au magasin aujourd'hui, là, à l'entrée du Super C, de « Savez-vous que... » Non, c'est quoi ça? Bon, fait que c'est ça. Fait que je pense que le but de cette émission-là, puis on... Je me dis, moi, là, il faut vraiment que ça soit dit et redit, parce que comment de gens souvent se retrouvent là, démunis devant ça. Puis là, actuellement, au moins cette disposition-là va donner la chance à des gens de se faire accompagner, pas seulement par un avocat qui leur coûte justement le
faire. Là. Puis tu sais, j'ai rencontré des gens quand ils m'ont expliqué leur situation, j'ai dû à un moment donné leur poser la question de dire... Ta santé mentale dans tout ça.
Oui.
Parce que oui, tu as des droits. T'sais, oui, c'est une bonne chose d'aller revendiquer tes droits. Mais quel est le prix sur ta santé mentale, t'sais, de continuer dans cette voie-là? Puis des fois, la décision, c'est malheureuse de dire, écoute, je vais laisser tomber mes droits parce que présentement, ma santé mentale est trop affectée par le milieu toxique que je vis.
Exactement.
Où je suis présentement. Fait que t'sais, y a cette partie-là, plus la pression d'avoir à aller devant le juge, de plaider sa cause. Donc, c'est très anxiogène, tout ça.
Puis il y a des juges, parfois, j'ai vu aussi, qui s'arrangent pour que tu aies l'air un petit peu fasqueuse, là, un petit peu mal, hein? Ils ont comme... j'ai vu des juges plus avec des préjugés favorables à la partie propriétaire, c'est le fait. Fait que toi, tu te retrouves devant ça, tu trembles, tu n'as pas dormi de la nuit, tu arrives des fois, tu t'es préparé, puis tout d'un coup, là, ça fait que ça, cette disposition-là, c'est important de le redire comment c'est un changement pour le mieux.
Le seul petit désavantage, parce qu'on m'a posé la question aussi, c'est les dossiers qui sont déjà ouverts. Donc, être ouvert avant le 21 février, ce n'est pas possible. Donc, tu sais...
Et t'as rappelé la date butoir.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, si votre recours ou votre demande a été ouvert au tribunal avant le 21 février 2024... Vous n'avez pas droit, malheureusement, là, à ces nouvelles dispositions. Fermez votre dossier, réouvrez-le. Non, non, ne faites pas toujours ça. Il y a des fois où vous pourriez avoir des préjudices de le faire. Mais vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez vous renseigner quand même pour voir est-ce que c'est un cas où le dossier pourrait être fermé s'il n'y a pas d'enjeu de perdre certaines choses, perdre des droits là, en fermant le dossier. Mais c'est ça. Fait que 21 février, c'est la même date pour toutes. C'est ça.
Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, tous ces changements-là, c'est beaucoup de beaux éléments.
Bien, merci. C'est des éléments importants. Comme je dis, on avait beaucoup d'autres éléments dans le document, en fait, qui se trouve sur le site du tribunal du logement. Puis on a décidé de sélectionner parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je pense que ça fait quand même le tour de beaucoup des informations importantes puis qui vont avoir vraiment un impact.
Je n'ai pas pu rejoindre Mario, mais je vais jeter pour l'heure, puis c'est vraiment agréable, comme tu as dit. Je ne suis pas ça pour être fin, là, parce que, comme tu as dit, je savais qu'avec toi, je n'aurais pas de trouble pour faire une belle heure comme telle. Puis, justement, ben, tout à l'heure, tu as abordé, évidemment, ton expérience auprès des femmes, de tout ce qui est, évidemment, la violence faite aux femmes. Et il y a eu... de la ministre Duranceau une affirmation sur la construction de maisons pour les femmes, justement, en situation qui ont subi de la violence, où les portes coûtent cher.
Oui.
Et d'ailleurs, il y a une campagne qui dit « Nous ne sommes pas des portes ». Donne-nous cet éclairage-là. Puis en plus, t'as un don merveilleux, tu te prépares en plus. Très bien. Dis-nous un peu ce que tu as fait comme recherche.
Oui, effectivement. C'était un dossier. Peut-être que je dirais que j'étais un petit peu moins à l'aise que celui précédent, là, où j'ai quand même... ça touchait beaucoup l'aspect légal. Puis j'avais déjà là, donné la formation. Mais on me donne-moi un mandat et je vais le remplir... Sans problème. Donc, peut-être une remise en contexte. Je sais que ça passe beaucoup aux nouvelles, mais pour ceux là, qui l'auraient pas vu aux nouvelles, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2021, suite à une vague de féminicides...
Pendant la pandémie, justement.
Oui, c'est ça, exactement. Le gouvernement s'est engagé et a annoncé qu'il allait construire 236 nouvelles unités d'hébergement de seconde étape pour, justement, les femmes qui sont victimes de violences. Et de cette façon-là, resserrer le filet de sécurité autour d'elle. Fait que présentement, là, j'ai parlé de seconde étape, puis je vais faire la distinction un petit peu plus bas. Ouais. Mais l'un des objectifs de ces unités d'hébergement-là, c'était d'offrir des appartements qui sont sécuritaires à des prix abordables pour les femmes et leurs enfants. On le sait que parmi les locataires, les femmes sont surreprésentées.
Oui.
Et les femmes avec plusieurs enfants
aussi
ont plus représentées et ont plus de difficultés à se trouver, à trouver des logements. Puis je ne rentrerai pas dans pourquoi les propriétaires font des choix. Mais c'est une réalité.
On aurait une autre heure à faire.
Exactement. mais c'est une réalité. Puis on va dire, oui, on a construit dans les logements sociaux, mais les logements sociaux viennent pas répondre aux besoins
de... Non, il n'y a pas la sécurité, là.
Il n'y a pas la sécurité, puis les délais d'attente sont très longs.
Oui.
Donc, pour ces raisons-là, il faut qu'on fasse quelque chose de plus spécifique, puis venir offrir un service. Par la suite, ce qu'on a entendu aux nouvelles, c'est que la ministre Duranceau estime que le projet qui a été soumis par les groupes coûte trop cher.
Bon.
Puis qu'il ne respecte pas la capacité de payer des contribuables. L'argent était même sur la table avant qu'il y ait eu cette annonce-là, en indiquant que le coût du projet pour les maisons des femmes coûterait entre 900 000 et 1 million de dollars par porte.
Oui.
par place,
ouais.
qu'on nous dit. Donc, elle a bloqué le chantier, ce qui a fait beaucoup parler.
Oui, qui va faire... qui n'est pas fini, là.
Et suite à ça, il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de désaccords par rapport à cette décision-là. Tu sais, entre autres, il y a quelqu'un qui avait nommé ou dans les journaux, tu sais, combien coûte la vie d'une femme,
ouais.
une femme qui est victime de violences conjugales? Puis qu'est-ce... T'sais, allons-nous devoir attendre à ce qu'il y ait plus de femmes qui décèdent
Mais...
pour réaliser l'importance de ces centres-là? Aussi, dans mes recherches, j'ai contacté des organismes de la région pour savoir qu'est-ce qu'on a ici en région,
oui.
est-ce que ça répond aux besoins, puis qu'est-ce qu'eux pensent de l'annonce. J'ai parlé, entre autres, avec l'organisme L'Escale, qui est le seul à avoir les hébergements d'étape 1 et d'étape 2. Donc, les hébergements d'étape 1, ou qu'appellent le MH1, c'est des hébergements de courte durée. Donc, les gens vont rester là entre un mois, trois mois, et l'idée, c'est de les garder avec un grand filet social. Il va toujours y avoir des intervenants qui vont être là, et éventuellement leur permettre de soit retourner dans un logement régulier, vivre avec la famille. Il y a toujours, ça arrive, une partie qui vont retourner avec leur conjoint. Mais c'est la première étape. Ensuite de ça, il y a les NH2, qui sont celles dont le gouvernement parle, donc de seconde étape, qui, eux, il y en a un seul à Sherbrooke. Donc, les femmes qui vont être au niveau 1, il y a certains endroits, et tout est plein, là.
Ah oui, puis il y a une liste d'attente, là.
Il y a une liste d'attente, là. C'est long, là. Mais on est vraiment en manque de ce type de maison-là, où, à la base, nous, à l'Escale, ce qu'on m'a donné comme information, c'est que c'est des ententes de 6 mois, mais comme ils nous disent, ils ne mettront pas une femme à la rue. Mais présentement, c'est plein. On a besoin d'avoir plus de ce type de résidence-là, qui est au niveau de deuxième étape, comme ils appellent.
Alors, évidemment, puis ça, justement, comme je disais, ça t'a touché parce que tu as travaillé dans ce domaine-là, comme femme aussi conscientisée. Écoute, aujourd'hui, là, ça a passé vite, là, finalement, Mario, il a l'occasion de revenir. Puis moi, je le dis, là, aujourd'hui, de l'éclairage que tu as apporté, c'était ta première expérience radio.
Moi, j'ai beaucoup aimé, comme ça me fait plaisir de revenir, alors à moins que j'entende après des commentaires. Mais non, je suis vraiment contente, puis ça va me faire plaisir de parler aussi d'autres sujets, là, dans la mesure où je connais l'information. Tant mieux si les gens peuvent en profiter.
C'est ça, cette émission va être disponible à partir de demain sur notre site Internet pour, justement, les gens qui veulent réentendre tout l'éclairage que tu as apporté, Christelle, aujourd'hui sur la loi, comme je te dis, pour... bien du monde, pour avoir travaillé moi-même dans le domaine. C'est compliqué, mais c'est comme quand un médecin te raconte, tu as l'impression que tu vas être bien malade. Là, fait que là, la même chose. Fait que merci de cet éclairage-là. Comme tu disais, tu vois, là, une heure passe très rapidement.
Je ne le croyais pas, mais effectivement,
c'est ça passe. Parce que justement, là, tu t'es bien préparé, puis tu as une facilité de parole, puis je pense que encore merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à toi, Alain.
On va aller justement à la programmation régulière. Nous, on va venir dans 2 semaines. Mario, de toute façon, on va nous reparler. De toute façon, le budget va rester toujours comme il est. De toute façon, dans 2 semaines, la crise du logement ne sera pas réglée. Hein? Comme ça, je ne pense pas. Alors, on se laisse là-dessus et on laisse à la programmation, bien sûr, de CFLX comme telle. Et puis, moi, je vais juste placer mes petites choses pour être bien prête à vous. La chose, et puis on vous laisse là-dessus. Bonne écoute de la programmation de CFLX. On voit bien dans 2 semaines, logement, un droit pour justement et pouvoir éclairer les ménages locataires sur tout ce qui se passe dans ce merveilleux monde du logement.
Je vote pour la science avec Isabelle Burga.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les voyages en avion se multiplient depuis la fin de la pandémie et sans doute vous avez voyagé récemment. Prendre l'avion, ça reste un des transports les plus sûrs. Pourtant, certains incidents récents nous inquiètent. Un avion de la compagnie américaine Alaska Airlines perdait récemment un hublot en plein vol. Ça a poussé l'Agence fédérale américaine de l'aviation civile à garder au sol les 171 appareils 737 MAX 9 de Boeing pour les inspecter. Le Québec est un des leaders en aéronautique. Pourtant, le Canada obtenait dernièrement une note très moyenne, un C ou un 64% du côté de la sécurité et de la supervision des vols.
Il est midi
59 minutes.
Les publications Élie Musique Québec vous présentent le livre « La guitare à son meilleur ». Exercices, gammes et plus de 300 accords, un ouvrage de Denise Lavoie, compositrice. C'est un livre de référence indispensable pour vous, guitaristes. C'est un très beau cadeau à offrir. Communiquez avec nous au 819-791-2977. Avec Élie Musique, la livraison est immédiate. Pour plus d'infos, allez au ediemusique.com.